RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Toute l'actualité africaine, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. C'est une avancée dans le conflit dans l'est de la RDC. Les délégations de la présidence congolaise et du mouvement armé AFC M23 annoncent avoir convenu à Doha de travailler à la conclusion d'une trêve préalable à un cessez-le-feu. Nous y reviendrons avec Patient Ligodi. Le Bénin, choqué par la mort de 54 soldats béninois selon un nouveau bilan de l'attaque de deux postes avancés dans le nord. C'était le 17 avril, un bilan confirmé par les autorités. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis que les groupes djihadistes ont ciblé le pays. En Côte d'Ivoire, des réactions du PDCI après la radiation par la justice de la liste électorale de son candidat Tidiane Thiam, écarté de la présidentielle d'octobre prochain. Les parlementaires du parti d'opposition suspendent leur participation à l'Assemblée nationale. Enfin, la visite d'État d'Emmanuel Macron à Madagascar avec son homologue malgache Ange Radzwell. Il annonce un renforcement de la coopération économique. C'est une évolution dans les négociations entre l'AFC M23 et les délégués de la présidence congolaise. Pour la première fois, les deux parties ont communiqué officiellement sur leur pourparlers tenus à Doha, au Qatar. Ainsi, ce mercredi, dans une déclaration conjointe, les représentants de la RDC et ceux du mouvement armé annoncent avoir convenu de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Peut-on parler pour autant d'un tournant dans les discussions et qu'est-ce qui change concrètement? Élément de réponse avec Patient Ligodi.
Ce n'est pas encore un cessez-le-feu, ce n'est pas non plus une trêve. À ce stade, c'est une déclaration d'intention, un communiqué dans lequel les deux parties affirment avoir convenu de travailler ensemble à un accord. Comme RFI l'annonçait déjà, ce texte était prêt depuis le 17 avril. Il avait été élaboré 4 jours après la fin des discussions directes entre les délégués de Kinshasa et ceux de la FCM23. Il ne manque plus que l'approbation formelle de Félix Tshisekedi. C'est désormais chose faite, le président congolais a donné son feu vert. Et les documents ont été publiés dans la foulée conjointement par les deux parties. Et la prochaine étape, il s'agit maintenant de respecter les engagements pris avant d'ouvrir un véritable dialogue de fond. Parmi ces engagements, le rejet des intimidations et la volonté de créer un climat propice aux échanges. Le dialogue attendu doit porter, selon les deux parties, sur les causes profondes du conflit et sur les modalités concrètes pour ramener la paix dans les territoires de l'Est. Cette annonce intervient aussi au lendemain d'une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed El Koulaifi, en charge du dossier, et Massad Boulos, le nouveau conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche.
Et autre rencontre, celle du général Muhoozi, chef d'état-major de l'armée ougandaise et fils du président Museveni, avec des dirigeants de personnalités présentées comme dirigeants de la CODECO. Une rencontre qui s'est déroulée à Kampala. La CODECO, c'est cette milice qui est active en Ituri, dans l'est de la RDC. La CODECO et l'UDPF se sont affrontés ces dernières semaines dans des territoires qui longent la frontière avec l'Ouganda. Explication Florence Maurice.
L'armée ougandaise affirme dans son communiqué qu'il s'agit d'une étape importante dans les efforts de paix régionaux en cours. La délégation présente à NTB aurait même exprimé ses regrets, peut-on lire, au sujet des récents affrontements entre la CODECO et l'armée ougandaise. Mais la prudence reste de mise parmi les observateurs. Sur la photo diffusée à l'issue de la rencontre, figure un commandant de la CODECO, Alfred Bahati. Mais la milice est divisée en plusieurs factions, difficile de connaître son poids sur le terrain. Ce midi, Gerson Bassa-Zoukpa, l'un des porte-parole de la CODECO, a déclaré à RFI que l'état-major du mouvement n'avait pas été informé. Nous ignorons quel est l'objectif de sa mission, poursuit-il. Également sur la photo, Étienne Dundji Kouloukpa, le vice-président de la communauté Lendou. Lui est considéré comme un notable, une personnalité civile donc, même si la CODECO est essentiellement composée de Lendou. Les forces ougandaises sont déployées en Ituri depuis le mois de février, un déploiement qui alimente de nombreuses suspicions sur le rôle de Kampala dans le conflit en cours et sur ses intentions en Ituri, que le général Muhoozi a récemment présenté comme une zone d'influence pour son pays, l'Ouganda.
Florence Maurice, vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, il est 22h35 en temps universel, 23h35 au Bénin, où l'émotion est vive. Le pays vient de subir l'attaque la plus meurtrière depuis que les groupes djihadistes ciblent cet État. Selon un nouveau bilan bilan confirmé par les autorités. Ce sont 54 soldats béninois qui ont été tués dans l'attaque de deux postes avancés le 17 avril dans le Nord. Un bilan nettement revu à la hausse puisque le précédent faisait état de 8 victimes. Jean-Luc Aplogan.
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houmédi, a donné les mêmes chiffres ce mercredi lors du point sur le Conseil des ministres. Ces nouveaux chiffres sont communiqués 6 jours après l'attaque. Une source militaire confie que ce dernier bilan est, je cite, « presque définitif ». Du coup, notre interlocuteur a revu à la hausse le nombre de soldats béninois blessés, ainsi que le nombre d'assaillants neutralisés lors des combats et après ratissage. Toujours pas de détails sur les circonstances. Les deux positions ciblées ont été attaquées simultanément, l'une au point triple à la frontière Bénin-Niger-Burkina et l'autre près des chutes de Koudou dans le parc W. Les assaillants sont arrivés, très nombreux et à moto, et lancé une attaque d'une violence inouïe. On parlait de l'attaque du 8 janvier 2025 comme la plus meurtrière. Celle du 17 avril dernier a fait plus de décès dans le rang de l'armée béninoise. Un bilan qui suscite une vive émotion dans l'opinion publique béninoise et de multiples interrogations sur la toile. Beaucoup visaient le gouvernement. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et au Sénégal, le Conseil constitutionnel rejette la loi du nouveau pouvoir révisant la loi d'amnistie adoptée en mars 2024 pour apaiser les tensions politiques sous l'ancien président Macky Sall. Le Conseil estime que ce n'est pas conforme à la Constitution. La loi invalidée par ce Conseil constitutionnel ouvrait la voie à des poursuites judiciaires contre des caciques du régime de l'ancien président Macky Sall dans les événements de 2021 à 2024.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
En Côte d'Ivoire, vive réaction du PDCI après la radiation de la liste électorale de son ex-candidat à la présidentielle d'octobre, Tidiane Thiam. La justice estime qu'il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur la liste en 2022. L'opposition du PDCI, en colère, a décidé de suspendre sa participation aux sessions de l'Assemblée nationale. Elle boycotte. Mais le parti de Félix Houphouët-Boigny mise toujours sur sa candidature. Abidjan, Binta Diagne.
Révoltés, les députés du PDCI ont décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale ce mercredi en signe de protestation suite à la décision de justice ordonnant la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale. Simon Doho est le président du groupe parlementaire du PDCI.
Beaucoup d'arguments juridiques sont avancés, mais c'est une orchestration savamment préparée par le pouvoir en place.
Au lendemain de la publication de la liste électorale provisoire le 17 mars dernier, les députés du PPACI ont également suspendu leur participation à l'Assemblée nationale tant que l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, n'est pas inscrit sur la liste. Hubert Houlaye, le président du groupe parlementaire du PPACI, exprime aujourd'hui sa solidarité avec le PDCI.
Pour la fiabilité et la paix des prochaines élections, il fallait avoir un consensus, aussi bien sur les futurs candidats que sur le processus électoral. À ce jour, nous voyons que rien ne bouge.
Le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, rejette ces accusations et rappelle le principe de séparation des pouvoirs.
Nous sommes en train de bâtir un état de droit qui est basé sur le respect des textes. En la matière, le droit a été dit dans chacun de ces cas. Je ne vois pas où est-ce que le gouvernement intervient.
Ce responsable du gouvernement rejette l'idée d'un nouveau dialogue tel que réclamé par l'opposition, car la cinquième phase du dialogue politique est bouclée et pour éviter, je cite, des arrangements qui ne sont pas conformes avec les textes. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Tidiane Thiam qui est donc de facto écarté de la présidentielle de Côte d'Ivoire sans possibilité de recours devant la justice. Alors qu'est-ce que peut-il faire à présent? Quelles options se présentent à lui? Une nouvelle révision de la liste électorale est-elle encore envisageable? Écoutez les réponses du politologue Geoffroy Julien Kouao. Il répond à Nicolas Sûr.
Selon le président de la commission électorale indépendante, il y aura bel et bien une révision de la liste électorale en 2025, mais après l'élection présidentielle d'octobre. Ce qui veut dire que, sur le plan juridique et judiciaire, M. Tidiane Thiam ne pourra pas participer à cette élection, mais la seule porte de sortie qui s'offre à lui, c'est-à-dire l'éventualité d'une révision de la liste électorale, paraît impossible au regard des affirmations du président de la commission électorale indépendante.
Vous l'avez dit, la présidentielle du 25 octobre se déroulera sans Laurent Gbagbo, sans Tidiane Thiam. Diriez-vous que c'est un boulevard qui s'annonce pour le RHDP au pouvoir? que son candidat soit ou pas d'ailleurs Alassane Ouattara, qui n'a pas fait connaître ses intentions.
Non, je ne le pense pas. Il suffit simplement pour l'opposition de faire preuve de réalisme politique et de présenter d'autres personnalités. Comme je vous l'ai dit, le RHDP a fait 15 ans de pouvoir. Vous le savez très bien, gouverner, c'est décevoir. Et nonobstant quelques réalisations, il y a de véritables attentes au niveau de la population. Tout va dépendre de l'attitude de l'opposition, d'accepter d'abord cette réalité et de présenter de nouveaux chevaux. Dans tous les cas de figure, elle n'a pas autre chose à faire que d'aller à ces élections.
Oui, c'est-à-dire que pour vous, l'opposition n'a absolument pas intérêt à adopter la stratégie de 2020, celle d'un boycott actif des élections.
Non, je pense que la Côte d'Ivoire a assez souffert des crises électorales, surtout au niveau de l'élection présidentielle. Ce dont ont besoin les Ivoiriens, c'est les élections paisibles. Et certes, des personnalités importantes ont été disqualifiées par des décisions judiciaires, mais je pense que l'opposition regorge de nombreuses personnalités et elle devrait faire preuve de réalisme en présentant des plans B qui pourraient, comme dans le cas du Sénégal tout récemment, permettre une véritable alternance politique.
Geoffrey Julien Kouaou, le politologue avec Nicolas Sûr. Une procédure sans précédent dans l'histoire moderne du Ghana. Le président annonce la suspension de la présidente de la Cour suprême. La plus haute magistrate du pays fait l'objet de plusieurs pétitions qui réclament sa destitution pour mauvaise conduite ou encore abus de pouvoir. À Accra, Victor Carillo.
Au regard des accusations formulées à l'encontre de la plus haute magistrate du Ghana, le président John Dramani Mahama a déterminé qu'il disposait d'assez de preuves pour exiger l'ouverture d'une enquête. Voici comment, en substance, le porte-parole du chef d'État a justifié par voie de communiqué la suspension de la présidente de la Cour suprême, Gertrude Torcorno. L'enquête, menée par un comité nommé par le président, devra déterminer le bien-fondé des allégations de mauvaise conduite et d'abus de pouvoir présentées par les trois pétitions. Enquête à l'issue de laquelle le président arbitrera sur la destitution de la magistrate. Une éventualité qui serait sans précédent dans l'histoire de la 4ème République et qui inquiète certains députés de l'opposition. Ces derniers y voient une volonté de remplacer la présidente de la Cour suprême par, je cite, « une personne politiquement complaisante avec le pouvoir en place » ainsi qu'une décision dangereuse pour l'avenir de la démocratie ghanéenne. La présidence indique quant à elle agir dans le respect de la Constitution sans préciser pour l'instant la date à laquelle sera rendue la décision. Victor Cariou, Accra, RFI.
Antananarive, 96 FM.
La visite d'État d'Emmanuel Macron à Madagascar, le président français a signé avec son homologue malgache Ange Radzuel une série d'accords économiques dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture ou encore de l'énergie. La France souhaite soutenir la production d'énergie renouvelable grâce à des investissements massifs. C'est un enjeu très important pour Madagascar, dont 2/3 de la population n'a pas accès à l'électricité. Et quant au contentieux territorial des îles éparses, les deux présidents ont également annoncé la tenue d'une prochaine réunion. Guilhem Fabry.
Chantier prioritaire pour Madagascar, le projet de centrale hydroélectrique de Voloubé va bénéficier d'une participation de l'entreprise française EDF à hauteur de 37,5% du capital. Cette infrastructure, censée produire de l'électricité pour environ 2 millions de personnes, aura un impact concret et durable pour les populations, promet le président malgache Ange Radzuel.
L'expertise française conjuguée à nos efforts de modernisation renforcera la capacité de Madagascar à atteindre dans les meilleurs délais un accès universel à une énergie propre, durable et abordable pour toute notre population.
La question des îles éparses n'a pas été éclipsée, mais l'heure est encore au statu quo. Contrôlées par la France, qui occupe ainsi une position stratégique dans le canal du Mozambique, elles sont réclamées de longue date par la partie malgache. Le président français, Emmanuel Macron.
Sur le sujet des îles éparses, nous avons décidé de tenir une réunion de la commission mixte franco-malgache pour ouvrir des perspectives communes de développement et de coopération le 30 juin prochain à Paris. Et je veux dire que depuis 2019, nous gérons avec pragmatisme ce sujet.
Au cours de cette première journée de visite, Emmanuel Macron s'est aussi félicité de la restitution prochaine de 3 crânes sakalaf pillés pendant la conquête coloniale française. Il n'a en revanche pas donné suite, jusqu'à présent, à la demande d'historiens malgaches de créer une commission de recherche sur les violences coloniales. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Les États-Unis ont rendu à la Tunisie plus de 11 000 pièces archéologiques. C'est un important lot d'objets datant principalement de l'époque romaine. qui a été officiellement remis lundi à Tunis par l'université américaine de Géorgie. Les pièces avaient été prêtées à cette université en 1990, mais depuis, elles n'étaient jamais rentrées à la maison. Il a fallu un an d'échange de lettres et d'efforts diplomatiques entre la Tunisie et les États-Unis pour que reviennent au pays ces pièces dignes de vestiges ou d'Ibrahim.
C'est l'Institut national du patrimoine qui a reçu ce lot d'exactement 11 795 pièces archéologiques. Ces objets avaient été temporairement prêtés aux États-Unis dans le cadre de projets de coopération scientifique, mais jamais restitués jusqu'à ce jour. Selon Tarek El-Bakouch, le directeur général de l'IMP, ces objets sont composés de 3460 pièces de monnaie en bronze, de 2715 objets en ivoire, de bijoux, d'accessoires et d'outils de la vie quotidienne, ainsi que de 2825 pièces de verre, de céramique et de métal. Un communiqué du ministère des Affaires culturelles indique que ces vestiges ont été mis à jour lors des fouilles sur le site de Carthage, qui a eu lieu avec l'aide de 12 missions européennes et d'Amérique du Nord entre 1980 et 1990. La France, l'Italie, les États-Unis et le Canada ont bénéficié de milliers de pièces exportées pour études sous réserve de restitution, indique le communiqué.
Il est considéré comme le Nobel vert, the Goldman Environmental Prize, un prix qui est remis chaque année à des militants de l'environnement de chaque continent. L'édition 2025 a eu lieu à San Francisco. Elle a récompensé pour l'Afrique Semia Garbi, une militante tunisienne. Elle a lancé une campagne pour dénoncer un trafic de déchets entre l'Italie et la Tunisie. Grâce à sa mobilisation, 6000 tonnes de déchets ménagers exportés légalement par l'Italie ont été renvoyées dans le pays d'origine. C'était en février 2022, et plus d'une quarantaine de personnes impliquées dans le trafic de déchets ont été arrêtées. Autre victoire pour Semia Garbi, un changement de politique au sein de l'Union européenne. Il a renforcé sa législation concernant les transferts de déchets à l'étranger. Écoutez la lauréate Semia Garbi.
Représenter le continent africain, représenter la femme tunisienne, c'est une responsabilité et je partage avec tout ce beau monde-là ce prix-là. Nous ne sommes pas des dépotoirs. Les capacités donc des pays développés sont plus grandes que chez nous. Donc ils ont les capacités de gérer leurs déchets et de nous donner ces technologies. Au contraire, ça devrait être le contraire. L'être humain, il est partout le même. Donc si c'est dangereux pour la population des pays développés, c'est que c'est forcément dangereux pour la population des pays en voie de développement. Donc, il faut traiter les questions d'une manière équitable pour ne pas réellement mettre l'être humain comme si c'était à deux niveaux. On parle de justice environnementale à l'échelle internationale. Donc, cette justice environnementale, c'est pour avoir un environnement sain. Notre vie, elle dépend directement des écosystèmes. Et si on contamine, forcément, on va contaminer la santé humaine, la santé animale et la santé aussi des plantes. C'est réellement interconnecté. Il faudrait chacun de nous et protège son environnement pour essayer de protéger les autres.
Semia Garbi avec Juliette Pietraszewski. Le tennis et le second tournoi Challenger d'Abidjan se poursuit. Le numéro 1 ivoirien, Eliakim Koulibaly, est un gaucher de 22 ans. Il est aujourd'hui loin dans le classement mondial, 324e. Il a de l'espoir, l'étendard du tennis ivoirien. Il cherche à progresser et à surmonter tous les obstacles. Mohamed Lamine Savané.
Poussé par un public acquis à sa cause, Eliakim Koulibaly s'est imposé pour la première fois dans ce challenger face au Français Florent Bax. Ni son élimination au premier tournoi, ni l'insuffisance des moyens n'ont atteint le mental du numéro 1 ivoirien, ravi et positif pour la suite.
Ça se passe pas mal, plutôt compliqué. Manque de moyens, manque de financement. J'essaie de faire de mon mieux, donc je suis très fier de moi. Si je bosse jusqu'à ce que je rentre dans le top 100, le financement il va venir, il est souvent commencé à venir. Donc on peut qu'évoluer, il ne faut pas se fixer de limites, il faut toujours croire en soi. Je dois continuer à bosser, continuer à gagner des matchs, peu importe le pays, peu importe l'endroit.
Gagner à domicile où on est la tête d'affiche nationale a en tout cas une saveur particulière et un impact certain, notamment pour les amateurs locaux du tennis. Fabrice Hilaire-Croy, qui a donné de la voix durant les deux matchs réussis, pense qu'Eliakim Koulibaly est sur une bonne lancée.
Je pense qu'il a évolué parce que depuis l'année surpassée, il n'était pas bien classé. Il était 400 et quelques. Et là, il est arrivé, il était 300 et quelques. Donc je pense qu'il est en train d'évoluer. Au fil du temps, il essaie de hausser son niveau. Mais je pense qu'en un an, deux ans, il va mieux jouer encore.
Eliakim Koulibaly, qui dit être actuellement à son meilleur classement, est aussi une source d'inspiration pour les jeunes Ivoiriens qui s'intéressent au tennis. Molaminsi Savané, Abidjan, RFI.
RFI Afrique Soir, il est minuit passé de 50 minutes ici à Paris. Partons en Côte d'Ivoire qui va en faire la vitrine du tourisme d'affaires. En près de deux ans d'exploitation, le parc des expositions d'Abidjan a accueilli un peu moins de 80 manifestations, des salons professionnels, des concerts. En début d'année, la gestion du site a été officiellement confiée à un poids lourd du secteur événementiel, le groupe français GL Events, un site stratégique qui a pour but d'être moteur dans le secteur événementiel ivoirien. Pour Afrique Echo, Benoît Almeras s'est allé dans les coulisses de l'équipement qui a coûté près de 115 millions d'euros.
Difficile d'échapper au dôme du PEA, l'installation géante est visible dès l'arrivée à Abidjan, à 2 km de l'aéroport. De quoi convaincre Yaya Silla, organisateur du SIAD, le salon de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace.
Nous avons invité des sommités tant au niveau de l'IA, tant au niveau de l'espace et de la défense, qui sont habitués à des environnements adaptés.
Yaya Silla a loué l'unique hall du parc des expositions, 6500 m2, négocié à partir de 8 millions de francs CFA la journée.
C'est un peu coûteux, mais ça vaut quand même la peine de montrer le sérieux de ce que nous faisons et surtout de montrer qu'en Afrique, il y a des infrastructures comparables à ceux de l'Occident.
La filiale ivoirienne de JL Events doit gérer le PEA jusqu'en 2030 au moins. Son directeur, Thierry Biscup, est entre autres chargé de promouvoir la destination Côte d'Ivoire pour les salons professionnels.
On est sur un marché d'exposition, de gros congrès. Ça veut dire que vous avez un nouvel équipement structurant nous permettant de pouvoir aller jouer en concurrence avec les autres destinations comme le Maroc, comme l'Égypte.
Et pour Thierry Biscup, le développement du tourisme d'affaires passe par des investissements supplémentaires en matière de transport aérien ou d'hôtellerie.
Imaginez que demain, on signe un congrès de 3 000 ou 4 000 personnes. Bah derrière, c'est 3 000 ou 4 000 chambres. Donc nous, ici, on n'est qu'un maillon de la chaîne sur Abidjan.
Les attentes du gouvernement sont fortes autour du PEA, qualifié de locomotive d'un secteur qui emploie 6 000 personnes et représente 50 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires chaque année. Agara Yao est l'un des responsables de Voodoo. Le premier groupe de communication ivoirien se serait bien vu gérer le PEA, mais l'arrivée de JL Events est tout de même vue comme une opportunité.
Il est indéniable que JL Events a une expérience donc internationale qui a une offre en termes d'équipement, technicité qui peut permettre justement aux organisateurs d'événements locaux de pouvoir avoir plus de possibilités qu'ils n'auraient eu sans eux.
Le ministère du Commerce et de l'Industrie espère 20 milliards de francs CFA de retombées économiques chaque année grâce au parc des expositions d'Abidjan. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Abidjan, 22h53, 17h53. Port-au-Prince, merci de rester avec nous à l'écoute d'Afrique Soir, c'est RFI. Afrique Soir, c'est le moment de retrouver notre rendez-vous avec Pierre Vallée pour notre chronique musique. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et c'est une découverte ce soir.
Oui, on parle d'un duo, Ezinam et Sibusile Chaba, un duo cosmiquement poétique qui joue de l'afro-roots électro aux accents de jazz spirituel. C'est ainsi qu'ils se présentent eux-mêmes. Et il faut bien admettre que cette description, qui peut sembler un petit peu farfelue au premier abord, est finalement assez juste, tant leur musique est difficile à définir.
Alors, qui sont ces musiciens? C'est qui ce duo?
Alors, les dames d'abord. Ezinam Dogbatse, de son vrai nom, est une musicienne belgo-ghanéenne qui a grandi entre Bruxelles et Accra. Elle a une formation classique au piano et aux percussions, et puis elle a appris aussi la flûte traversière ainsi que tout un tas de machines, loopers, samplers, qui teintent son high life d'une touche électro. Sibusile Chaba, quant à lui, est un chanteur guitariste sud-africain qui n'a aucune formation. Il a tout appris en autodidacte, mais il a déjà une carrière solo confirmée. Si ce n'est qu'il faut admettre que sa musique est très originale, pour ne pas dire déconcertante. Elle demande à l'auditeur un peu de patience et une certaine ouverture d'esprit. En gros, ce n'est pas lui qui écrira le prochain tube de l'été. Mais ce qui est remarquable, c'est le mélange de ces deux univers assez singuliers qui se conjuguent parfaitement.
Et ils sortent un album alors ?
Oui, leur premier album qui s'appelle Healing Voices, les voix qui guérissent, un titre qui résume assez bien l'état d'esprit qui habite ce disque, un disque qui va au-delà d'une simple addition de chansons. Comme le dit Ezinam, nous faisons de la musique un art, mais aussi une médecine. Ces chansons sont créées en étroite connexion avec nos âmes et la musique de nos ancêtres. Un disque déroutant donc à la première écoute, mais qui mérite, je crois, largement que vous lui donniez une deuxième chance. Vous pourriez bien être surpris.
Avec de l'électro-comics, comme dit Pierre Vallée, avec cette belle découverte que l'on va refermer cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à vous, merci à toute l'équipe pour la préparation à la réalisation ce soir. Jonathan Brady reste avec nous. L'info revient dans quelques instants et toute l'actualité, c'est à retrouver bien sûr sur notre site internet www.rfi.fr. Bonne fin de soirée.
RFI, la sélection du mois.
Émilie Marche.
J'attendais pas à vivre en tête.
Jusqu'à ce qu'on soit cabossé.
Patkala et le Super Mojo.
On veut pas vivre au boulot, mais mettre les pieds dans l'eau.
On va pas bosser.
Ah ouais. RFI Musique.
On ne fait rien dans la vie.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Que raconte l'histoire de la culotte, ce sous-vêtement tabou sur la condition des femmes ? Tantôt sexy ou simplement pratique, autrefois l'apanage des hommes. Et si porter la culotte n'était pas si anodin ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Demain, selon l'OMS, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde. Le docteur Thembo Batili, oncologue, répond à vos questions. Vendredi, les femmes âgées de plus de 60 ans sont plus touchées par l'arthrose que les hommes. Peut-on prévenir cette maladie articulaire du cartilage ?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI.